Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Je ne serais pas arrivée là si Angélique Kidjo.
Angélique Kidjo. Je ne serais pas arrivée là si mon père n'avait pas mis ses trois filles à l'école. Lui, si calme, si digne, si pince sans rire, pouvait se transformer en lion furieux sur la question de l'éducation. Zéro tolérance pour la connerie humaine et ses manifestations comme le racisme ou l'antisémitisme. Alors il tenait à ce que ses fils soient scolarisés au même titre que ses sept fils, pour comprendre la complexité du monde et penser en liberté. Il me disait « J'ai un petit salaire. Et ta mère déploie des talents d'ingéniosité pour que vous puissiez manger trois repas par jour et que votre scolarité, vos livres, vos uniformes soient payés. Car la seule richesse que je peux vous donner, c'est une éducation. Ce que vous en ferez après, ce sera votre choix. Mais je veux faire de vous des hommes et des femmes de raison. »
Il faisait partie de ces gens éclairés.
C'était un sage. Et j'aimerais que toutes les filles d'Afrique aient ma chance et que leurs pères comprennent qu'elles peuvent accomplir des choses extraordinaires si on leur donne la possibilité de déployer leurs ailes. Papa avait décrété que notre maison de Cotonou était une zone de liberté. Il ne se souciait pas de ce que nous faisions en dehors des repas. La seule contrainte, c'était de se retrouver tous ensemble au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Car autour de la grande table, on discutait. Et je vous assure que c'était vivant. Tous les sujets étaient abordés. La religion, la drogue, la sexualité. On riait. C'était joyeux et libre.
Une smala de 10 enfants ne devait pas être facile à gérer.
C'est la question que j'ai posée à maman il y a peu. Mais comment as-tu fait avec 10 gosses ? Je ne réfléchissais pas, m'a-t-elle dit. Nos journées étaient structurées par les repas et l'école. Et pendant les vacances, tout le monde mettait la main à la pâte et prenait son tour de cuisine. Garçons et filles. De vieilles tantes s'alarmaient. Mais tu vas faire de tes garçons des filles ? Ma mère tenait bon. Il n'est écrit nulle part qu'une femme doive être l'esclave d'un homme. Et elle nous expliquait. Quand j'ai épousé votre père, il ne savait même pas faire bouillir de l'eau. Mes garçons devront savoir tout faire. C'est le cas. Mes frères savent faire le marché, cuisiner, coudre, couper les cheveux. Croyez-moi, ce n'est pas si fréquent au Bénin.
C'était un discours féministe ?
Bien sûr. Maman était très moderne. Elle faisait partie d'un groupe destiné à promouvoir le droit de vote des femmes, le droit de choisir son partenaire, le droit à l'avortement.
Le patriarcat était particulièrement oppressant dans cette société.
Oui, comme partout. D'ailleurs, maman avait créé une association des enfants uniques, parce qu'elle avait vu la solitude dans laquelle s'était retrouvée sa mère, et même sa belle-mère, à cause de ce patriarcat. Mes deux grands-mères sont devenues veuves à 35 ans. Dans une telle situation, la tradition exigeait que la femme épouse le frère ou le cousin du défunt. Or, les deux ont refusé. Ok avec l'idée qu'épouser un homme, c'est aussi épouser sa famille, mais pas question de coucher dans un lit avec son parent. À partir de ce moment-là, elles ont perdu tout soutien, à elles de se débrouiller toutes seules avec leurs enfants. C'est ce qu'elles ont fait en ouvrant des commerces. Les femmes sont fortes dans ma famille.
Vous n'avez rien à leur envier.
Moi, petite, j'étais une pile électrique. J'avais une énergie vitale dingue, convaincue jusqu'à mes 12 ans que j'étais un garçon. Les robes, les chaussures vernies et les sockets blanches, quelle horreur. C'est nu-pieds que je me sentais bien. Pour grimper aux arbres, jouer au foot, suivre mes frères. Quant aux poupées, je détestais. J'étais d'une telle curiosité qu'on m'avait surnommée « quand, quoi, comment ». Quand j'arrivais au village avec toutes mes questions, mes oncles et mes tantes devenaient fous. C'était pourtant normal, rien n'est écrit chez nous. Si tu ne poses pas de questions, tu ne connais rien.
Et puis vous chantiez.
Depuis toujours. Avant même d'avoir prononcé ma première phrase, assurait mon père. Quand j'entendais de la musique quelque part, je laissais tout en plan et hop, je courais. Il fallait que je trouve d'où ça venait. Rien ne pouvait m'arrêter.
C'est une tradition de famille ? Un don particulier ?
Quand ma mère est tombée enceinte de moi, elle a prié tous les dieux pour que je sois une fille. Mon père disait « Pourquoi tu me regardes? C'est pas moi qui décide. » Mais elle lui répétait « Je veux une fille. » Mon père se moquait « Tu n'aimes pas les mecs ?» Et ma mère s'énervait « Attends, combien de mecs je t'ai déjà fait ?»« 5 !» Or, c'est à ce moment-là qu'une tante, qu'on appelait Rossignol, et qui était détentrice des chansons traditionnelles de la famille, a été contrainte, pour des raisons de santé, de venir séjourner chez nous à Cotonou. Et tous les jours, elle chantait, la bouche collée contre le ventre arrondi de maman, en disant « Tu auras une fille, et elle chantera. » Eh bien, ces chansons me sont mystérieusement entrées dans la tête. Quand je les chantais, fillette, tout le monde était sidéré. « Mais comment tu connais ça ?» Je répondais « Je ne sais pas. »
Et quand avez-vous compris que vous alliez en faire votre métier? Plus qu'un métier d'ailleurs, un mode de vie, un engagement.
J'avais appris à 9 ans l'existence de l'esclavage. Et à 15 ans, celle de l'apartheid en Afrique du Sud. C'était sur une chaîne de télévision nigériane qu'on avait réussi à capter et sur laquelle Winnie Mandela parlait de son mari et de sa lutte contre le régime raciste. Ce fut un choc incroyable. Comme si le monde et les valeurs dans lesquelles m'avaient élevé mes parents s'écroulaient. J'ai ressenti une angoisse et une douleur immense. « Quelle injustice !» me disais-je. « Il faudrait avoir honte ou peur à cause de la couleur de sa peau ?» C'était inconcevable. J'ai tout de suite écrit une chanson. Mon père l'a écoutée et m'a regardée dans les yeux. « Je comprends ce que tu ressens. Mais la haine et la violence n'ont pas de place dans cette maison. Ton rôle, en tant qu'artiste, n'est pas de mettre de l'huile sur le feu, mais d'unir les gens. » Alors soit tu réécris ta chanson et tu tires quelque chose de positif de la douleur que je vois dans tes yeux, soit tu ne chanteras plus jamais. Je suis repartie et j'ai changé complètement ma chanson. Ce fut le début d'une prise de conscience sur la responsabilité des artistes qui a influencé toute ma vie.
Vous vous donniez déjà une mission.
L'injustice est ce qui me révulse le plus depuis que je suis gamine. Elle m'est insupportable. Et au fil des années, toutes les bagarres auxquelles j'ai été mêlée étaient liées à cette notion. Et puis mon père m'a fait comprendre qu'utiliser mes poings était un signe de défaite absolue. C'est avec son cerveau qu'il faut se battre, et de façon pacifique. Alors j'ai mûri l'idée de devenir avocate spécialiste des droits de l'homme. Ou alors chanteuse, comme Myriam Makeba, dont les chansons avaient une force et un sens très politique.
Vous avez commencé à vous produire très jeune sur les scènes du Bénin. À 19 ans, vous aviez même déjà sorti un disque.
Oui, ce disque a tellement tourné sur toutes les radios d'Afrique de l'Ouest qu'un tourneur très renommé a accepté d'organiser un grand concert au Togo, avant de se rétracter. « Franck, je suis désolée », a-t-il dit à mon père. « J'adore la voix de ta gamine, mais elle est vraiment trop petite, personne ne la verra sur scène, je ne veux pas investir. » Mon père est devenu fou. « Tu te rends compte de la bêtise de tes propos? Ou as-tu appris que les artistes devaient être grands ?» C'est à la taille que tu mesures le talent? Eh bien, lui, qui était postier et ne connaissait rien à la promotion musicale, a relevé le défi. Et toute la famille a fait corps. Il a fait fabriquer des t-shirts, refait les invitations, modifié de sa main toutes les affiches du concert, investi ses économies. Le concert a bien eu lieu, déclenchant un énorme bouche à oreille qui a lancé ma carrière en Afrique.
Et pourtant, vous avez décidé de partir.
Je n'avais plus le choix. Le régime marxiste avait anéanti toute liberté d'expression et la dictature avait transformé chaque citoyen en espion potentiel. La suspicion était partout, même au sein des familles. Quant aux artistes, ils étaient réquisitionnés pour écrire et chanter les louanges de la Révolution. J'ai dit non, impossible. Il fallait donc que je parte. Alors la famille s'est organisée pour m'extrader vers Paris, dans le plus grand secret. C'était le 10 septembre 1983. J'avais 23 ans.
Vous débarquiez du Bénin, mais vous étiez française.
Oui. J'étais née 2 semaines avant que le Bénin n'obtienne son indépendance. Et donc, légalement, j'étais aussi française que ces Parisiens qui ne répondaient pas à mes sourires dans le métro et ne concevaient pas qu'une noire ait la même nationalité qu'eux. Les débuts furent difficiles. J'ai eu faim et froid. J'ai fait une multitude de petits boulots.
Mais vous avez rapidement été invitée à faire la première partie de votre maman musicale, Myriam Makeba, à l'Olympia. Un label de disques prestigieux vous a signé et les rencontres avec des musiciens stars se sont enchaînées. James Brown, Peter Gabriel, Carlos Santana, Celia Cruz, Alicia Keys.
On me demande parfois pourquoi je suis généreuse dans mon métier et que j'invite tant de gens sur ma scène. Mais c'est parce que j'ai de la mémoire, que je me souviens que des gens m'ont tendu la main à mes débuts. Je n'ai pas été élevée dans la culture du prendre, prendre, prendre. Ma grand-mère me disait toujours « Quand tu donnes, tu reçois plus ». C'est tellement vrai.
Quels sont les thèmes que vous avez le plus à cœur de chanter ?
Les droits des êtres humains. Le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres naissent libres et égaux en droit. Eh bien, cet article est sans cesse bafoué, et cela me révolte. Mes chansons évoquent les mariages précoces, les unions forcées, les violences conjugales, mais aussi l'amitié et la solidarité qui nous lient. Je parle aussi des enfants, de la liberté d'expression, de justice politique pour les opposants d'un régime. Chanter avec un message donne du sens à ma vie.
Et presque à chaque concert, vous évoquez l'esclavage.
Parce qu'on n'en a pas fini avec cette histoire. Et qu'elle n'a jamais été correctement racontée. Un crime a été commis contre les Africains, qu'on accentue encore en déniant à ce peuple le droit à sa propre histoire. On ne vit pas en Afrique, on survit. C'est pour cela qu'en allant chercher ma récompense, sur la scène des Grammy Awards en 2007, je me devais de rappeler à tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité.
L'année suivante, Barack Obama est élu président des États-Unis et vous étiez invité à chanter le soir de son investiture.
Avec quelle allégresse, quel optimisme. J'avais l'impression que le monde bougeait enfin dans la bonne direction. On a beaucoup discuté avec Michelle Obama de ce qu'il est possible de faire pour faciliter l'éducation des jeunes filles dans les différentes communautés. Il faut qu'elles deviennent leaders, qu'elles influent sur le sort de l'Afrique. Au fond, c'est ce qui me tient le plus à cœur avec ma fondation Batonga. Les femmes sont la colonne vertébrale de ce continent.
Et l'élection de Donald Trump ?
Cette fois, c'est de chanter le lendemain de son investiture qui m'a fait du bien. C'était le 21 janvier 2017 à la grande marche de protestation des femmes. C'était radieux et c'était fou. Il y avait Angela Davis, Gloria Steinem, Madonna. Quand je suis montée sur scène, j'ai senti une onde qui traversait la foule dont je ne voyais même pas la fin. Je me suis dit que s'il y avait un bon Dieu, c'était ça sa manifestation. Parce qu'il y avait de l'amour, de la foi, de la solidarité. Et que ce moment était tout simplement génial. On fait des choix dans la vie. Certains peuvent être désastreux en termes de carrière, mais on ne peut pas ne pas les faire. Je reste fidèle aux valeurs de mon père, dont le souvenir m'accompagne. Et j'aime ce proverbe américain si difficile à traduire en français. « If you don't stand for something, you will fall for anything. »
Je ne serais pas arrivée là si... Entretien avec Annick Cogent pour le journal Le Monde, sur une idée originale de Judith Henry. Lu par Judith Henry et Julie Gaillet. Musique originale, Vincent Segal. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc et Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Romane Chiban. Réalisation, Juliette Eman. Entretien publié aux éditions Grasset.